Voilà, donc nous vous saluons. Nous sommes ravis d'avoir une belle assistante ce samedi après-midi. On se disait qu'il faisait très très beau à Paris aujourd'hui, contrairement au jour précédent. Et on est ravis de vous accueillir si nombreux pour ces deux tables rondes. Donc nous sommes maintenant à la première et il y aura une deuxième juste après celle-ci. La première de ces tables rondes s'appelle, le titre c'est « Diversité théologique dans le protestantisme d'hier et d'aujourd'hui ». Pour illustrer ce thème et pour illustrer cette réflexion que nous allons avoir cet après-midi, quoi de mieux que de vous présenter la diversité de nos intervenants? Alors, ils ne représentent pas, et ô combien, l'extraordinaire diversité du protestantisme aujourd'hui, mais enfin, ils en représentent quand même une bonne partie. Alors, pour vous donner un peu un écho de ce que va être cet après-midi, et en tout cas, comment on va illustrer ce thème, je vais tout simplement vous les présenter. Et comme ça, vous verrez que déjà, il y a une certaine diversité dans le protestantisme d'aujourd'hui. Alors, la première personne qu'on va présenter, parce que quand même, c'est un président, c'est le président de la Fédération protestante de France, le pasteur Claude Batty. Alors, il est là sous deux casquettes, j'allais dire, même si le mot n'est pas très joli. Il est là parce que c'est un pasteur de l'église, des églises libres, donc il est référencé évangélique. Et on lui posera des questions sur le courant, la spiritualité, les tendances évangéliques. Et puis évidemment après, on lui posera des questions autour de la présidence de la fédération, comment on réunit toute cette grande diversité. La deuxième personne que je voudrais présenter, c'est le pasteur Marc Pernaud, qui est le pasteur 2 qui est ici. Tu peux te lever peut-être, comme ça on verra qui c'est. Marc, voilà. Marc Pernaud qui est le pasteur de cette église de l'oratoire, qui nous accueille, voilà, et qui nous dira un petit peu ce qu'est la tradition de cette église, de cette paroisse, qui se veut libérale, et on verra ce que ça veut dire pour lui. Parlant de libéralisme, je vous présente aussi le pasteur André Gounel, qui est rendu professeur honoraire aujourd'hui à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Et il enseignait la théologie systématique. Et il va, lui, nous expliquer qu'est-ce que c'est cette tradition libérale. D'où vient ce courant libéral dans le protestantisme. À côté de lui, entre les deux que je viens de présenter, nous avons Hubert Bost, qui va débuter cette rencontre, qui, lui, n'appartient en principe à une famille dont je viens de parler, mais qui est un historien. Et qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études, qui est doyen de la section des sciences religieuses de l'EPHE. Et donc, comme historien, il nous dira d'où vient toute cette grande diversité protestante. Est-ce que c'est lié aux origines? Est-ce qu'il y a des raisons théologiques, organisationnelles et autres à cette grande diversité du protestantisme? Et la dernière personne qui interviendra, est-ce qu'elle vient, c'est peut-être celle qui vient de plus loin? Non, André, il vient de Montpellier, c'est loin aussi. Donc, Jean-François Collange, qui vient de Strasbourg, qui était professeur de théologie systématique à la faculté de théologie de Strasbourg, et qui est aujourd'hui le titre exact, c'est quoi? Président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par un petit rappel historique. Avec Hubert Bost, je vais donner quelques minutes pour nous dresser un tableau qui représente plusieurs dizaines ou centaines de livres. Il va nous expliquer pourquoi et d'où vient cette immense diversité protestante. Est-ce que c'est un défaut du protestantisme? C'est une qualité? À quoi ça correspond? Donc Hubert, tu as quelques minutes pour nous expliquer tout ça.
Est-ce que vous m'entendez? Bien. Alors d'abord, merci de votre présence. Je suis effectivement historien, même si je me suis frotté à différentes traditions théologiques et en particulier celle de la réforme calviniste à l'église de laquelle j'appartiens. Je vais d'abord vous prier d'excuser le fait que notre tribune ou notre table ronde est très masculine et que de ce point de vue-là, la diversité n'est pas du tout, assurée. Je préfère devancer les réflexions, les propos à ce sujet. Je vais donc faire quelques réflexions d'historien, de sorte que la question, par exemple, de savoir si c'est bien ou mal d'être divers, c'est une question que je ne pourrais aborder que de manière différée. Je ne pourrais pas moi-même me prononcer sur ce point. Et je vais bien rester sur la question de la diversité, c'est-à-dire d'une pluralité de formes d'expression théologique et ecclésiologique, sur la diversité ou la pluralité, et non pas sur le pluralisme, qui correspondrait à une sorte de volonté de promouvoir la diversité, de volonté de la mettre en avant. Il y aura le moins possible de jugement de valeur dans mon propos. Alors, pour être bref, puisque c'est la première et la plus importante des consignes, disons que depuis le XVIe siècle, la question classiquement abordée lorsqu'on dit la réforme ou la réformation, les historiens ont pris l'habitude de la mettre au pluriel. On parle des réformes, on parle du temps des réformes et on commence ce temps bien avant le XVIe siècle et Martin Luther. Là où les réformes monastiques dès le bas Moyen-Âge, les courants comme la Devotio Moderna, les secousses en Bohême avec Jean Hus et en Angleterre auparavant avec John Wycliffe, sont autant de manifestations du fait que la chrétienté désirait se réformer. Et il y a au fond un concours de circonstances, notamment pour des raisons techniques, l'imprimerie, qui va aboutir à une explosion au XVIe siècle ou à une série d'explosions relativement variées. Donc, le fait qu'on soit passé d'une lecture confessionnelle dans laquelle on disait la réforme et la contre-réforme du côté catholique à une lecture qui se veut, du point de vue historique, plus neutre, en disant les réformes et en suspendant le jugement, est un changement de perspective très important pour percevoir qu'il y a, d'un point de vue historique et à la différence d'un western, non pas les bons contre les méchants, mais des chrétiens qui se cherchent et cherchent les voies et les moyens de réformer la chrétienté. Ceci posé, on arrive assez vite à se rendre compte que ce qu'on est habitué à percevoir en termes d'identité confessionnelle, le luthéranisme, le calvinisme, l'anabaptisme, et ensuite, au fur et à mesure que les siècles avancent, on parle de l'orthodoxie calviniste ou luthérienne, on parle du libéralisme, on parle du méthodisme, on parle du pentecôtisme, etc. Donc, tous ces ismes-là, on a tendance à les considérer comme des objets finis. Or, lorsqu'on regarde l'histoire, on s'aperçoit d'une quantité invraisemblable de tâtonnements, de frontières floues ou d'absence de frontières qui permettent à l'historien d'affirmer que les choses se sont passées ainsi, mais auraient très bien pu se passer de mille autres façons. À moins, bien sûr, de croire que Dieu, par sa divine providence, guidait la réforme de l'Église, ce que l'historien peut croire, mais qu'il n'a pas le droit de dire s'il le croit. Je prends deux exemples de ces frontières floues. Deux exemples dans l'historiographie récente. Le premier, c'est celui des travaux de Thierry Van Eckfelen, qui a montré qu'il y avait en France, avant que les camps ne se forment entre, disons, ceux qui restent catholiques, ceux qui s'affirment évangéliques et ceux qui veulent carrément réformer l'Église en sortant du catholicisme, il y avait, dit-il, un plat pays de la croyance, comme entre deux villes, il y a une sorte de zone indistincte dont on ne sait pas très bien quels sont exactement les contours. Ces travaux permettent de comprendre qu'il n'est pas aussi évident de dessiner les frontières que nous en avons eu l'habitude a posteriori. Et de la même façon, les historiens de l'anabaptisme, je pense en particulier à notre collègue Neil Blau, qui travaille sur les tout débuts des réformes des villes dans l'Allemagne du Sud et dans la Suisse du Nord, montre bien que les lignes de fracture qui se sont produites entre les anabaptistes qui ont jugé que Zwingli n'allait pas assez loin et Zwingli et les Zurichois, ces lignes de fracture sont assez longues finalement à se dessiner et qu'au fond c'est entre complices que les entre personnes œuvrant dans le même sens que les frontières se sont peu à peu établies au point de devenir des raisons d'excommunication. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que souvent, on a tendance à penser qu'il y a le protestantisme ou les protestantismes face au catholicisme. Alors que, selon le critère que l'on se donne, selon le point que l'on examine, on s'aperçoit assez vite que la frontière n'est pas au même endroit. Par exemple, lorsqu'on regarde les attitudes théologico-politiques des réformateurs, on s'aperçoit que la frontière ne passe pas du tout entre protestants et catholiques, mais entre protestants de la réforme guidée par les villes et les pouvoirs politiques et catholiques d'un côté, et justement les anabaptistes, les spiritualistes, ceux qui luttent pour une sortie, en quelque sorte, de la société, pour une conception du protestantisme qui est en rupture avec l'idée selon laquelle on pourrait être chrétien et vivre, entre guillemets, normalement. Sur la question des sacrements, il en va de même. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Sur la question du rapport à l'écriture, sur la question du rapport et de l'usage de la raison ou de l'importance de la communauté par rapport au statut de l'individu, on s'aperçoit que toujours les lignes de frontière entre différents courants sont souvent ailleurs que là où on a pris l'habitude de les tracer, parce qu'on les trace à partir de la carte géographique à peu près de la fin du XVIe et jusqu'au XVIIIe en gros. Bref, je termine parce que je sens que le modérateur s'impatiente. Je crois important de souligner que la question de la diversité est une question qui est native, qui est originelle dans le protestantisme, de là à dire que c'est aussi la question de la variation doctrinale, comme Bossuet le reprochait aux protestants, il y a un pas que je ne franchirai pas, sauf à citer Leibniz, qui répondait à Bossuet, « Il nous plaît, monsieur, d'appartenir à des églises changeantes. » Je vous remercie.
Merci beaucoup, Ibn. Avant de continuer peut-être le tour que j'avais prévu, j'ai envie de rebondir tout de suite sur le président de la Fédération. On vient d'expliquer un peu cette évolution historique, ces frontières poreuses, les frontières qui ne sont pas tout à fait là où on les attend. Est-ce qu'il y a une modernité à ces propos? Est-ce que ça se confirme aujourd'hui? En d'autres termes, est-ce qu'il y a aussi cette grande variation d'échanges? Est-ce qu'on constate ça ou est-ce qu'on constate un élargissement des différences aujourd'hui? Deux mots, Claude Batty. Ouais.
Voilà.
Ça doit marcher, oui, ça marche.
Est-ce que ça fonctionne ?
Oui, très bien, très bien.
Effectivement, les choses ne se sont pas arrangées de ce point de vue-là depuis le XVIe siècle, puisque aujourd'hui, tout le monde fonctionne en réseau. Et les frontières ecclésiastiques sont bien plus poreuses aujourd'hui qu'autrefois, de mon point de vue. Tout simplement parce que...
Vous pensez que la porosité a augmenté par rapport...
Je pense. Ouais. Il y a une circulation des idées plus facile et une circulation des personnes aussi, ce qui évidemment joue après sur l'identité de chacun. En deux minutes.
Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on en vient peut-être d'abord à cette église ici. Peut-être Marc Pernaud, faut nous dire en deux mots aussi où nous sommes. cette église se veut appartenir à une tradition récente, ou enfin, parce que l'église n'a de toute façon que 2 siècles. Donc quel est le sens, le cœur de cette tradition, de cette habitude ici d'appartenir au monde libéral? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, bonsoir. Il y a autant de libéralisme qu'il y a de protestants dans l'oratoire, à peu près, enfin, voire même un peu plus, parce que, comme le disait Hubert, on a le droit de changer aussi et d'évoluer. Mais principalement, je crois que ce serait plutôt une méthode, c'est-à-dire ne pas sacraliser les dogmes, la doctrine, mettre plutôt la raison, l'intelligence au service de la foi, au service d'une recherche théologique personnelle, et donc accepter que des personnes qui sont dans la même église, sur la chaise d'à côté, au culte le dimanche matin, n'aient pas la même pensée exactement sur un certain nombre de points, même tout à fait essentiels. Comme une certaine vision de Dieu qui peut être différente. Certains peuvent croire que Jésus a marché sur l'eau sans ski nautique, d'autres pensent que ce n'est qu'un symbole. Donc ça ne nous dérange pas, et au contraire, sans revendiquer comme un système le fait d'être différent, c'est quelque chose qui est plutôt là, oui, source d'enrichissement pour nous. C'est un peu la règle du jeu ici.
On sait aussi, enfin, beaucoup de gens savent qu'il y a une tradition du christianisme social ici, avec Wilfred Monod, qui a marqué l'Église, et pas seulement l'Église, mais je dirais la société. Est-ce que le christianisme social est lié d'une manière ou d'une autre au libéralisme? Ça n'a rien à voir.
Peut-être que dans le libéralisme, il y a le fait d'un certain respect des autres individus, une absence peut-être de jugement de valeur qui peut encourager peut-être d'avoir une certaine attention aussi dans le domaine matériel. Je ne sais pas, en tout cas, Wilfred Monod, est-ce qu'il était vraiment très libéral? Peut-être pas tant que ça, finalement. Il était assez spiritualiste. C'est lui qui a planté cette croix au sommet, ce qui est effectivement très discutable. Mais... les grandes figures du par exemple, Marron, tout de suite à l'origine de l'oratoire, était assez libéral, en fait. Il mettait une place à la raison, une place au libre examen de chacun. Il était très centré sur la réflexion biblique. Donc, dans un sens, il était pré-libéral, même si à cette époque, on n'utilisait pas ce mot. Et dès les débuts de l'oratoire, il y a eu une attention aux autres, un diaconat, une caisse de secours des pauvres. Donc, c'était... Le fait est que c'est arrivé en même temps. Je ne sais pas si ça l'est forcément et nécessairement. En fait, c'est venu ensemble, oui.
Dernière question, Marc. Tout le monde voit qu'on a un site. Il y a un site internet dans la paroisse qui marche très très bien. Il y a 2000 personnes qui y vont régulièrement chaque semaine. Est-ce que cette ouverture à partir d'internet fait partie d'une vision libérale, ou est-ce que ça, c'est simplement s'adapter à la situation d'aujourd'hui?
Mais je crois qu'effectivement, ça fait quand même partie d'une vision libérale, même s'il y a des églises très évangéliques qui aussi cherchent à promouvoir leur message par Internet. Mais nous, on assume le fait, finalement, que les gens puissent être chrétiens chez eux. C'est-à-dire que de chez eux, ils puissent suivre une prédication, une étude biblique, réfléchir par eux-mêmes. Alors bien sûr, s'ils viennent ici, on en sera reconnaissant, car ça apportera à cette diversité, à ce débat, par le témoignage personnel de telle personne. Mais c'est, oui, je crois que c'est reconnaître à tout un chacun le droit de cheminer comme bon lui semble, comme bon l'entend. Et donc, c'est cette ouverture-là qui nous permet de dire, oui, on a le droit d'être chrétien chez soi, par Internet, oui. Bon, c'est vrai qu'on préfère que les gens viennent ici, parce que c'est plus sympa, mais on dit que les gens ont le droit.
André Gonnel, on vient de parler, on a lancé ce mot « libéralisme » de... Marc l'a cité plusieurs fois. Donc moi j'aimerais que vous me disiez d'où ça vient, quand est-ce né ce courant? Est-ce qu'il est depuis l'origine, au XIIIe siècle, ou est-ce qu'il est né à un moment particulier de l'histoire de notre pays? Alors deuxième question subsidiaire, aujourd'hui on parle beaucoup de libéralisme politique, et encore pire, le libéralisme politique encore c'est pas très très mal vu, mais le libéralisme économique dans notre pays c'est assez horrible, enfin même si ça se discute. Qu'est-ce que ça veut dire ce libéralisme en théologie? Comment situes-tu par rapport à ces autres acceptions du mot libéralisme?
Alors avant de répondre, je reviens sur la
première question, d'où ça
question
vient.
Précédente.
Oui, très bien.
Simplement pour signaler que le pasteur André Numa Bertrand, qui n'est pas besoin de présenter ici, a fait en 1907 un rapport à l'Association des pasteurs libéraux, où il distingue 4 sortes de libéralisme, et où la pointe de son message est de dire, vous libéraux, il faut absolument que vous vous ouvriez au christianisme social. Vous n'êtes pas assez ouvert au christianisme social. Je pourrais d'ailleurs mentionner un certain nombre de gens qui sont venus au libéralisme par le christianisme social plutôt que le mouvement contraire. Alors, le mot libéral, c'est devenu très difficile à employer parce que c'est devenu un de ces gros mots du langage politique. Et il n'y a pas grand-chose de commun entre ce qu'on appelle libéral au 19e et ce qu'on appelle libéral aujourd'hui dans notre pays. Le libéralisme, libéral, c'est un mot qui surgit du vocabulaire politique et qui sera ensuite appliqué aux religieux. Et à l'origine, le libéral, c'est celui qui met avant tout la liberté personnelle, qui pense que l'État doit être au service du citoyen et non pas le citoyen au service de l'État. Et contrairement à ce qu'on appelle libéralisme ou ultralibéralisme aujourd'hui, le libéral du 19e siècle est quelqu'un qui est pour les réglementations, mais pour des réglementations qui assurent la liberté individuelle. Il y a eu donc comme une sorte de retournement de sens qui nous a posé des problèmes. Et je me souviens, il y a 35 ans, dans des conciliabules auxquels participait, je pense, Laurent Gagnebin, qui doit être quelque part par là, nous nous sommes dit, il faut trouver un autre mot, si on veut pas être dans la confusion. Et puis, non, nous n'avons pas trouvé d'autre mot. Et en même temps, si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous tenions à aussi affirmer combien nous étions redevables à un certain nombre de nos prédécesseurs, combien nous nous inscrivions dans une tradition qui, il y a 30 ans, était 40 ans, était déconsidérée, était systématiquement dévalorisée, et dont, par nos lectures, nous découvrions qu'elle avait de l'allure, de la valeur, et qu'elle méritait d'être mise en exergue. Alors, voilà pour le mot même, le courant. Il me semble que le libéralisme, là je suis une analyse d'un Allemand qui s'appelle Ernst Rösch, il me semble que le libéralisme, je ne dis pas né parce que s'occuper de la naissance, mon voisin le sait parfaitement, d'un concept, c'est on n'en finit plus, on trouve toujours des précédents. Mais le libéralisme émerge vraiment au tournant du 18e et au début du 19e, et il est la conséquence d'une triple révolution. D'abord, révolution dans le rapport au texte biblique, dont on prend conscience qu'il ne descend pas du ciel, qu'il n'est pas inspiré, mais qu'il est la manière dont des hommes rendent compte d'une expérience de rencontre avec Dieu, rendent compte d'un moment d'inspiration. Donc, humanité du texte et étude, donc, critique. Deuxième révolution dans la conception du dogme, c'est la révolution post-kantienne, où on s'aperçoit que la doctrine ne dit pas ce qu'il faut croire, mais qu'elle exprime notre manière de croire. Et donc elle est critiquable, et donc elle est révisable, et donc qu'elle peut être plurielle. Troisième révolution, l'effondrement progressif de l'idée d'une cité chrétienne, d'une cité dominée par les chrétiens et régentée par les chrétiens, et donc la volonté de penser en termes autres la présence du chrétien dans la société. André Dumas-Bertrand disait qu'il faut distinguer protestantisme libéral et libéralisme protestant. On peut discuter du vocabulaire comme de tous les vocabulaires. Protestantisme libéral, pour André Dumas-Bertrand, c'est une école très précise qui a connu ses grandes heures entre 1880 et 1920, dont les deux noms les plus prestigieux sont Harnack et Trulsch, surtout Trulsch, tellement inconnu et malheureusement inconnu en France. Et ce qui caractérise cette école, c'est de joindre une piété extrêmement vive, une foi très profonde, avec un souci de rigueur intellectuelle sans aucune concession. De l'histoire, vraiment de l'histoire. Comme disait Hubert, ne faisons pas une théologie de l'histoire, nous faisons de l'histoire. Et c'est à l'histoire d'interpeller la théologie. C'est aussi la philosophie, en particulier pour Trulsch, et une volonté donc de rigueur intellectuelle, leur problème étant de maintenir les deux ensemble, de ne pas avoir une réflexion intellectuelle qui tue la piété et de ne pas avoir une piété qui tue la réflexion intellectuelle. Ils ont apporté leur solution, Je ne reviens pas sur ces solutions. Elles sont effectivement d'une autre date. Certaines, en tout cas, parce que Trulsch reste encore très, très, très actuel, à mon sens, beaucoup plus que les gens d'il y a 40 ans.
André, si vous voulez bien, je ne veux pas vous couper, mais on a parlé du passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être libéral? Est-ce que l'acception a changé? Est-ce que ça touche à des questions éthiques? Je ne sais pas, par exemple, en rapport à une vision de l'homosexualité ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est toujours sur des questions bibliques? Comment cette pensée a évolué aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le libéralisme? Parce que les choses ont beaucoup bougé dans l'histoire de l'Église.
Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a 30 ans, dans l'Église réformée de France, on avait l'impression que le libéralisme, un libéralisme doux, non provocateur, mais il n'y a pas besoin d'être provocateur pour être vrai, quelquefois il faut l'être, hein, mais pas trop, l'avait emporté. Et que la relativité de la doctrine, avec la grande affirmation du pluralisme, qui a été celle du protestantisme d'hier, il y a 20 ans, 30 ans, la revendication de la critique biblique était quelque chose d'admis,
tout le monde
de
est
reçu,
d'accord.
De manière tout à fait majoritaire. Alors ça amène deux remarques. D'abord, il ne s'agit pas d'admettre le principe, il s'agit de le mettre en pratique. Et là, ça grince un peu. Et que quand on se met à faire la critique historique de tel ou tel texte de la Bible, ou émettre un certain nombre de thèses qui sont pas tout à fait conformes avec l'idée qu'on a de la religion, on voit bien que ça grince, que c'est pas encore entré dans les mœurs. Et il y a donc là quelque chose à continuer, pas sur le plan du combat, mais sur le plan de l'explication et de la recherche. Deuxième remarque. Le protestantisme français est en train, me semble-t-il, peut-être que je me trompe complètement, mais en train de changer et de changer profondément, tant sur le point de vue mondial que sur notre point de vue français. Le protestantisme historique est un protestantisme en perte de vitesse. Les grandes familles protestantes du 19e, on les voit disparaître les unes après les autres de nos églises. Les régions protestantes, Suisse, Hollande, Allemagne, sont toutes des régions où le protestantisme est en recul. Par contre, il se développe en Corée, aux Indes, en Afrique, dans de nouvelles régions. Le protestantisme historique disparaît pour un nouveau protestantisme. Et ce nouveau protestantisme est en train de perdre, ou a perdu, ou n'a jamais acquis, l'expérience et la culture de siècles de réflexion. Et il y a donc tout un travail à faire pour expliquer que faire de la critique biblique, c'est pas impie. Que croire en la relativité des dogmes, ça ne signifie pas croire n'importe quoi et n'importe comment. Et que si la ferveur est excellente et à recommander, il faut toujours faire attention avec la ferveur qui est porteur d'excès, qui est porteur de fanatisme, et que la ferveur ne suffit pas, qu'il faut aimer Dieu non pas seulement de tout son cœur, mais aussi de toute sa pensée. Et là, il me semble qu'il y a une actualité assez grande. Expliquer à nouveau, empêcher ce qui est la tentation de tous les religieux et des religieux les plus sincères, d'oublier ce que Zwingli proclamait, Dieu seul est Dieu. Que Dieu seul est Dieu, ça veut dire que les églises ne sont pas Dieu, ça veut dire que la Bible n'est pas Dieu, ça veut dire que les sacrements n'est pas Dieu, que ce qui témoigne de Dieu ne doit pas être divinisé. Et qu'il faut marquer cette distance toujours par une critique, et alors aussi par un pluralisme, et moi je ne suis pas seulement partisan de la pluralité, mais bel et bien du pluralisme. Parce que quand on rencontre des opinions différentes, c'est à ce moment-là que l'on met en question sa propre opinion, qu'on s'interroge sur soi-même et qu'on sort d'un discours dogmatique, autoritaire.
Merci beaucoup, André, pour cet exposé sur le libéralisme. Alors justement, en réaction, on peut dire ça, Claude Batty, vous allez nous dire, est-ce qu'en réaction à ce courant libéral, c'est pas au XIXe siècle que sont nés les grands mouvements évangéliques? En parenthèse, on dit évangélique, pas évangéliste, comme on dit sans arrêt à la télévision, dans différents textes de presse. Est-ce qu'il n'y a pas, du côté des évangéliques, cette idée qu'il fallait réagir contre une tendance qui menait, un peu à la différence qui vient d'être dit, à perdre l'essentiel de la foi ou du message chrétien? Donc, le premier chapitre, Claude Batty, vous êtes là, un pasteur évangélique, vous défendez les évangéliques.
Je suis là pour défendre personne. Hein.
D'accord, d'accord.
Mais je pense que ce que le professeur Gounel disait du libéralisme en disant que c'est un gros mot, on peut dire la même chose du mot évangélique. Parce que ça fait partie des mots aujourd'hui qui ne veulent plus dire grand-chose tellement ils sont mis à toutes les sauces. Il me semble que pour comprendre ce qu'est un évangélique ou le courant évangélique aujourd'hui, il faut être conscient au moins de deux univers de référence. Le premier, qui plonge ses racines dans la Réforme et le XIXe siècle. La Réforme, c'est l'anabaptisme, qui subsiste toujours avec les Mennonites et qui sont dans le courant évangélique. Et puis, le XIXe siècle, j'y reviendrai dans un moment. Et puis, l'autre univers de référence, c'est ce à quoi faisait allusion M. Gounel, c'est cette explosion d'un nouveau protestantisme qui se qualifie d'évangélique, qui n'est pas conscient quelquefois de ses racines protestantes, que ce soit en Amérique du Sud. J'ai rencontré des Brésiliens tout récemment qui me disaient que, voilà, aujourd'hui, les protestants étaient 20 ou 30%, mais qu'en 2025, ils comptaient être 40% de la population, etc. Donc, on est là dans un autre univers et il faut essayer de voir s'il y a toujours des liens entre ces deux façons d'être évangélique. Mais en France, être évangélique, c'est d'abord, je pense, se référer au XIXe siècle. Évidemment, en sachant que le temps a passé. Mais ici, je ne peux pas ne pas faire référence à Frédéric Monod, qui a été pasteur pendant 25 ans de cette paroisse et qui a été une figure de proue du mouvement du réveil au XIXe siècle, qui a créé les écoles du dimanche, qui a été membre de toutes les sociétés possibles, sociétés bibliques, sociétés des missions, qui a été rédacteur des archives du christianisme et qui a bataillé contre le courant libéral, puisqu'il y avait à ce moment-là deux courants qui s'opposaient, les Coquerel, etc. Donc, là, on est dans un mouvement évangélique qui se définit lui-même assez clairement comme étant un retour au calvinisme strict. Ça, c'est l'évangélisme du XIXe siècle. Il y a quand même une nuance à apporter, même si Frédéric Monod n'a pas été celui qui l'a promu vraiment à ce moment-là, c'est sur l'aspect ecclésiologique, où il se sépare de Calvin, puisque les évangéliques au XIXe siècle commencent à dire que pour être membre de l'Église, il faut professer personnellement sa foi, ce qui peut aller jusqu'au baptême d'adulte, mais qui ne l'implique pas forcément non plus. Donc on va vers des communautés qui sont des communautés de professants. Et ça, c'est le mouvement évangélique assez typique français, avec des risques qui ont existé un temps, qui ont été combattus, c'est-à-dire le repliement. Et ce mouvement évangélique a été parfois un mouvement d'église qui se voulait hors du monde. Même si ça n'a pas été le cas de tous, parce qu'il y a eu aussi des engagements diaconaux très importants. Le réveil a créé des dizaines et des dizaines de sociétés de secours pour les pauvres, pour l'école, etc. Mais ça, c'est l'aspect évangélique français traditionnel. Les choses ont bougé aussi en France avec le pentecôtisme qui commence au début du XXe siècle. Et là, les choses vont évoluer de manière considérable puisque le pentecôtisme est une part du monde évangélique qui a du mal à se reconnaître dans le protestantisme puisqu'assez souvent, le pentecôtisme se réfère directement aux apôtres, comme si l'histoire entre eux et les apôtres n'existait pas. Mais n'empêche que le pentecôtisme, et puis après tous les mouvements charismatiques, vont jouer un rôle important et aujourd'hui sont vraiment trans-églises, c'est-à-dire qu'on trouve des mouvements de type charismatique aussi bien dans l'Église catholique que chez les luthériens, les réformés et les évangéliques. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à une situation complexe où les réseaux sont vraiment les moyens de communication naturels. Et on va trouver des mouvements qui vont recruter dans toutes les églises, même si ces membres n'éprouvent pas le besoin de quitter leur église pour autant. Donc, le qualificatif d'évangélique, voyez, est assez complexe à manier, parce qu'il fait référence à un certain nombre d'attachements qui sont pas non plus spécifiquement évangéliques, l'attachement à la Bible, qui sert de référence, même si, il faut bien dire, dans le mouvement évangélique marqué par le charismatisme, cet attachement à la Bible est professé, mais en même temps presque court-circuité par cette inspiration du Saint-Esprit qui rend quelquefois, j'allais dire presque inutile, la médiation biblique. Donc, ce qui ajoute encore à la complexité de la situation. J'ai cité tout à l'heure Frédéric Monod, évangélique réformé typique. Je vais citer un autre nom pour montrer la réalité de ce fonctionnement en réseau. Le théologien qui a sans doute marqué le plus le mouvement évangélique au XXe siècle, c'est John Stott. Or, John Stott est un anglican. Il a été aumônier de la reine d'Angleterre. Donc, ce n'est pas un évangélique échevelé, hein, loin de là. Mais c'est lui qui a certainement structuré le plus le mouvement évangélique sur le plan théologique et de la réflexion. Là, on s'aperçoit qu'il est impossible de dire si les évangéliques sont là et pas là.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un critère déterminant? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un rapport à la Bible, parole de Dieu? Je pense à, évidemment, c'est pas tout à fait la fédération, mais la confession de foi qu'a publié le CNEF, la nouvelle organisation des églises évangéliques, la mention de la Bible comme parole de Dieu, le thème de l'inhérence, est-ce que c'est ça qui est au cœur, qui est au centre de la revendication, entre guillemets, évangélique, ou est-ce que c'est autre chose?
Oui, on peut dire que, par exemple, le CNEF, c'est vrai, quand il s'est constitué, a beaucoup insisté sur le statut de l'écriture.
Voilà, de l'écriture.
C'était le terme employé.
Est-ce que c'est ça qui est au cœur du monde évangélique?
Et c'est vrai que cette référence est fondamentale. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser leurrer par cette référence, qui est très diverse aussi chez les évangéliques. Mais c'est vrai que la référence à l'écriture est quelque chose d'important. Mais il me semble qu'un des points aujourd'hui qui va définir un certain nombre de mouvements évangéliques, peut-être plus que la référence à la Bible, ce sont des questions d'éthique, de choix éthique, où un certain nombre, à cause de leur référence à l'Écriture, vont se reconnaître, par exemple, par rapport à l'avortement. Et pour un certain nombre d'évangéliques, être évangélique, c'est être contre l'avortement. Mais quand je dis ça, c'est évidemment très caricatural, parce que des personnes pour ou contre l'avortement, vous en trouvez partout, et chez les évangéliques également. Donc, rien n'est simple. Si on doit aujourd'hui caractériser le mouvement évangélique, on peut le faire par rapport à la Bible, je pense qu'on aurait plus intérêt à le faire par le fonctionnement de l'Église. Et là, on retouche à ce qui était déjà au XIXe siècle, c'est le lien à l'Église et l'engagement personnel, la profession personnelle de la foi, avec tout ce que ça implique comme engagement de témoignage et de vie. C'était vrai au XIXe siècle, puisque le mouvement de réveil dit qu'il redécouvre la vie du christianisme. Et aujourd'hui, l'insistance du monde évangélique est souvent sur l'appropriation personnelle de la vérité du salut. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important qui implique après qu'on en parle et qu'on dise aux autres, voilà ce que le Christ a fait pour moi et ce qu'il peut faire pour toi, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose qui marque davantage la différence, peut-être qu'un rapport à la Bible qui peut être
pluriel,
plus institutionnel. D'accord. On va dire.
On pourra en discuter parce qu'effectivement, voilà. L'évolution, les sociologues montrent que l'évolution des églises qu'on appelle aux États-Unis mainline church, des églises anciennes, tendent aussi à rassembler de plus en plus que des gens engagés et motivés.
Tout à fait.
Aujourd'hui. Dernière intervention, celle de Jean-François Collange. Donc, Jean-François Collange, vous êtes luthérien. Luthérianisme, c'est pas franchement une tendance du monde protestant, une sensibilité. C'est une église en tant que telle qui date des origines. Mais comment vous qualifieriez aujourd'hui le luthérianisme ? C'est quoi être luthérien ? Qu'est-ce que ça a de différent par rapport à tout ce qu'on a entendu ?
Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la réforme ou des réformes ? Les réformateurs, quelle qu'ait été leur origine et leur orientation, ont voulu, un, revenir à l'essentiel, deux, transmettre cet essentiel en termes de compréhension pour la modernité alors naissante. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour que ce message, que l'on comprenne en quoi il y a dans l'Évangile quelque chose d'essentiel pour les hommes et la société d'aujourd'hui, et comment le transmettre? Je dirais deux, trois choses à cet égard. Tout d'abord, en me référant, il faut bien le faire, à une figure historique qui ne sera pas prioritairement Luther. Et deuxièmement, j'essayerai de montrer comment on peut balbutier les vérités essentielles pour la vie d'aujourd'hui dans un langage actuel. C'est-à-dire, j'essayerai de montrer, je n'inventerai rien, mais je crois que c'est là l'un des défis qui nous est lancé, comment dire aujourd'hui la justification par la foi, ce qui est du chinois, du grec, de l'hébreu, tout ce qu'on veut, mais qui apparaissait au temps de la réforme et au temps de Paul, de l'Évangile, comme une vérité vivifiante et vitale, et qui aujourd'hui, je le répète, semble ne plus parler. Je ne me référerai pas à Luther d'abord, parce que à Strasbourg, la réforme a été introduite par une grande figure, Martin Bucer, qui en fait a été chassé vers 1550, après tout ce qu'il avait fait, et est allé mourir à Cambridge. Beau symbole. Il a été chassé par qui ? Par l'orthodoxie luthérienne. Je ne me sens pas luthérien orthodoxe. Mais si je dois me sentir quelque chose, c'est bucérien. Bucer, en quatre mots, introduit la réforme à Strasbourg. Il fait la navette, et on en a des, si vous jamais vous venez nous voir, on en a un magnifique tableau, je ne sais pas combien de centaines, de milliers de kilomètres il a fait pour entre Calvin et Luther, pour essayer de concilier ce qui, à l'époque, n'a pas été conciliable. Donc cette position, qu'est-ce qu'il faut dire ? D'intermédiaire éclairé. Peut-être pouvons-nous essayer de l'assumer. D'ailleurs, heureusement, la Concorde de Leuenberg, la création de l'Église unie de France, l'union des églises protestantes en Alsace-Lorraine, tout cela montre une direction dont on peut se réjouir. Bucer a ensuite essayé, comment dirais-je, il a essayé, il n'était pas seul, hein, c'était forcément tout un mouvement, de faire vivre les convictions de la foi dans la cité. Et cela selon deux directions, un engagement social fort, en faveur de ceux qui en avaient besoin, et puis la création d'une école, en Allemagne, c'est le Mélenchon, le disciple de Luther, qui a été conçu, qui a été présenté comme le recteur des universités allemandes de l'époque, asseoir la foi sur des bases, disons, scientifiques, d'intelligence, non pas rationalistes, pas du tout, mais asseoir la foi au cœur même de l'intelligence et du savoir humain. Et quatrièmement, il a créé des églises de maison. Il pensait que, il a essayé, il n'a pas vraiment réussi, que la façon la plus pertinente de permettre à l'Évangile de vivre, c'était non seulement de se retrouver dans des églises faites pour cela, mais de se retrouver en petits groupes, en ecclésioles, voilà. C'est de cette, s'il fallait se réclamer d'une figure, c'est de celle-là que je me réclamerais. Mais le défi actuel, c'est ni Bucer, ni Luther, Paul le disait déjà à l'époque, ne vous réclamez ni de Paul, ni d'Apollo, ni d'Apollos, ni de qui, n'importe qui. La seule chose qui compte, c'est Christ, et c'est Christ vivant aujourd'hui. Que peut bien signifier, mais je ne veux pas être trop long, et, mais je pose la question, que peut bien signifier? Passons par les kiosques de journaux lorsqu'il y a toutes les questions qui pèsent sur les épaules des sociétés et des hommes d'aujourd'hui. Que peut bien signifier? Comment comprendre? Comment vivre? Comment transmettre ce que, au XVIe siècle, on a compris comme le cœur du message chrétien, à savoir la justification par la foi? Tout un programme.
Merci beaucoup. Petite question tout à fait anecdotique. Nous avons... Jean-François, nous avons envoyé... Ah, il discute. Jean-François, nous avons envoyé une journaliste de réforme, une réformée d'ailleurs un peu évangélique, je ne sais pas si elle est là, en Alsace, pour voir un peu, découvrir, elle ne connaissait pas les églises luthériennes. Elle était frappée quand même par l'énorme différence de traitement des lieux. Les espaces, en tout cas en Alsace, sont d'abord magnifiques, très joliment éclairés, beaucoup de fleurs, avec des crucifix sur les croix. Enfin, il y a quelque chose qui, pour un protestant des Cévennes, ou pour un libéral, ou pour un évangélique, est un peu surprenant. Alors, comment on explique ça? Est-ce que la tendance, la sensibilité luthérienne est plus proche d'un catholicisme, ou ça n'a rien à voir? Comment on explique cette différence, culturelle, peut-être?
Alors, dans la mesure où, en Alsace-Lorraine, mais beaucoup plus en Alsace, La population protestante, c'est à peu près entre 15 et 20% de la population. Donc ça donne déjà une manière d'impacter le tissu social qui est difficilement, qui arrive peu souvent dans la France de l'intérieur. Mais on trouve de tout. Du coup, on trouve de tout. On trouve dans mon église que vraiment... J'aime, j'assume totalement. On trouve des piétistes, des libéraux, des évangéliques, des luthériens, forcément. Bon. Alors, la question de l'esthétique, elle est, je pense, double. Il y a certainement quelque chose de relativement traditionnel et catholicisant, mais pas tellement en Alsace. Moi, je dois dire que quand je vais dans les pays scandinaves, luthériens, je me sens pas chez moi. Mais ça, il faut pas leur dire, hein, parce que, bon, on voit des évêques qui ont des mitres sur la tête et qui sont relativement, il faut pas leur dire ça, qui sont relativement ridicules, parce que, au moins, les mitres catholiques, j'ai assisté à une sorte de grand-messe d'évêques luthériens. Mais là, je pêche. Non,
oui, c'est très, très mal.
Je pêche contre la fraternité.
Oui, contre la fraternité, oui.
Non, mais au moins, je dirais, les évêques catholiques que nous connaissons tous, ils ont des mitres qui tiennent sur la tête. Hein. On en pense ce qu'on veut. Alors que les évêques luthériens scandinaves, qui veulent faire écolo ou modeste, ont des mitres en tissu. Et alors, elles font comme les schtroumpfs. C'est très étrange.
Je l'appelle ridicule.
Bien. Donc, cette esthétique-là n'est certainement pas la mienne. Par contre, je dois dire que le problème esthétique, et c'est un comment dirais-je, un témoignage. Là, je ne pêche pas contre la fraternité, je ne pense pas. Un hommage que je rends à Claude. L'esthétique, la question de la beauté, du beau, est profondément liée à nos existences. Et je suis alors de temps en temps choqué dans les temples réformés par le manque de soin de cet aspect des choses. C'est important que ce soit beau. Le monde créé par Dieu est un monde beau. Et alors je rends cet hommage à Claude parce que je pense qu'il a un sens esthétique, pour autant que je puisse l'appréhender, particulièrement développé.
Donc c'est une critique de l'austérité, de dépouillement voilà. Réformé. Voilà. Alors, puisqu'on était on parlait de l'Église catholique, je voudrais me tourner, mais je vais poser aussi la question à l'historien. Comment on fait l'unité de tout ça? Quand on est catholique, on peut croire un peu, vivre un peu comme on veut, mais il suffit d'être en communion avec l'évêque. Voilà, en communion avec Claude Baptiste, c'est sympathique, ce que vient de dire Jean-François Collonges, mais ça ne suffit pas dans le protestantisme. Comment on fait l'unité? Peut-être avant que tu répondes, je peux demander à l'historien, comment les églises, ont, au cours des siècles, ont fait ou n'ont pas fait leur unité? Est-ce qu'elles s'en inquiètent? Ou est-ce que finalement, cette question de l'unité qui est rappelée dans l'Évangile par le Christ, soyez un, est-ce que pour les protestants, c'est finalement pas très très important?
Il me semble que cette question de l'unité a toujours été au cœur des préoccupations des théologiens et des personnes spirituelles, au sens qui ont le souci de l'esprit, de toutes ces églises. Les réponses ont été différentes. Mais je pense que les témoignages qu'on vient d'entendre de la part de tous ceux qui sont ici, et même les questions qu'on se pose, témoignent du fait qu'on est sans cesse à la croisée dans ces questions, à la croisée de deux types de critères qui sont celui de la raison, dont on a beaucoup parlé. Rendre compte de sa foi oblige à y réfléchir et à raisonner par conséquent, même si on ne dit pas forcément pour autant que la raison doit avoir le dernier mot. Et d'autre part, et on en a beaucoup parlé aussi lorsqu'on a évoqué les courants de réveil, les courants pentecôtistes, etc., l'autre critère qui est celui de l'émotion. L'émotion, bien entendu, qui est en rapport avec ce qu'on vient d'aborder, qui n'est pas du tout anodin en termes d'esthétique. Donc on a déjà deux pistes là qui nous permettent de comprendre que on croise et que les curseurs des deux côtés bougent. Ensuite, il me semble qu'on a vu aussi, et évidemment je ne réponds pas à la question puisque je suis historien, on a aussi vu que le curseur bougeait entre l'insistance sur l'expérience personnelle et l'insistance sur la nécessité de traduire cette expérience personnelle dans une communauté. Avec ce qu'a dit Marc, par exemple, il peut y avoir ce souci et il peut y avoir aussi le souci de respecter l'individu. Donc, émotion versus raison, d'une part, et d'autre part, tension entre expérience individuelle et partage de cette expérience dans la collectivité, sachant que la question peut toujours et se pose toujours, selon qu'on est plus ou moins du côté du catholicisme ou du côté justement du réveil, de savoir si au fond l'expérience n'est possible que dans l'Église, ou si l'expérience est d'abord individuelle et que ce sont ceux qui ont fait cette expérience qui forment l'Église. Vaste débat.
Vaste débat. Alors concrètement, Claude Batty, comment on fait quand on est président d'une fédération des protestantismes, puisque c'est ce qu'on retiendra aussi, aujourd'hui on parle de protestantisme au pluriel. On voit que d'ailleurs il y a des événements récents qui montrent que c'est pas si simple, puis il y a toujours des tendances un peu centrifuges où les gens finalement sont tellement écartés qu'ils sont plus en communion les uns avec les autres. Comment on fait pour faire l'unité? Est-ce qu'il faut faire des textes? Est-ce qu'il faut comment il faut s'organiser pour vivre l'unité dans la diversité?
D'abord, je crois qu'il faut croire en Dieu. Et quand je dis ça, ça veut dire que je crois que c'est Dieu qui s'occupe de tout ça et que moi, je vais faire des petites choses, mais c'est pas mon problème. C'est pas moi le patron. Et quand on se dégage comme ça, ça permet d'être mieux en relation les uns avec les autres, je pense. Je pense que beaucoup de choses se font sans qu'on le veuille, souvent, sans qu'on s'en aperçoive. Et je crois qu'à l'heure actuelle, dans notre pays et dans le cadre de la Fédération protestante, on vit une période relativement heureuse sur le plan des relations. Le livre dont a parlé Jean-Paul Villamière, Recomposition de la famille protestante, dit bien cela. Nous sommes à une période où dans la Fédération protestante, puisque tu me parles de la Fédération protestante, peuvent se rencontrer et discuter, dialoguer, travailler des gens qui sont de traditions ecclésiales très différentes, puisqu'on trouve aussi bien les luthériens, les réformés, les baptistes, les charismatiques, les tziganes, les adventistes, etc. Alors on pourrait dire que tout ça fait une espèce de salmigondi immangeable et qui ne fait rien du tout. C'est pas le cas. Parce que dans la mesure où chacun participe au dialogue, se rencontre, ben les choses bougent. Je crois qu'on a vécu trop longtemps avec des caricatures des autres, avec l'idée que voilà, le libéral c'est celui-là, l'évangélique c'est celui-là, et puis on n'a même pas besoin de le rencontrer, on sait déjà ce qu'il vaut. Je pense que ce temps, heureusement, est fini et qu'on se rend compte qu'il y a des richesses qu'on ne soupçonnait pas chez les autres. Et cette rencontre, à mon avis, fait vivre le protestantisme aujourd'hui. D'autant que tout le monde a changé. Si ça, c'est possible, c'est parce que tout le monde a bougé par la force des choses. C'est pas parce qu'ils se sont assis en disant « voilà, il faut qu'on change ». C'est parce qu'il y a eu des mouvements de fond dans la société qui ont fait bouger tout le monde. Ce qui fait que les réformés, je parle en leur nom, excusez-moi, qui autrefois ne voulaient pas parler d'évangélisation, maintenant consacrent des synodes à l'évangélisation, et que les évangéliques, il n'y a pas si longtemps, ne voulaient surtout pas qu'on parle de politique, sont engagés dans des mouvements sociopolitiques, quelquefois jusqu'au cou. Et ce qui fait que là, on a un nouveau lieu, un lieu de rencontre qui permet aux gens de se rencontrer. Alors, ça ne veut pas dire que on puisse revenir à un fantasme d'autrefois qui était une sorte d'unité des églises. Parce que, de toute façon, je le rappelle, parce qu'il y a des confusions quelquefois, la Fédération protestante n'est pas une église. Hein, sinon, mon voisin me le rappellerait aussitôt. C'est une fédération qui permet aux églises, aux mouvements de travailler ensemble et de permettre de rendre service et puis d'avoir une image positive, on l'espère, dans notre pays. Donc ça c'est quelque chose qui est permis aujourd'hui et qu'il ne faut pas rater. Je pense qu'on est dans une période où ça a été dit plusieurs fois, le protestantisme n'est pas en mauvaise posture et que le dynamisme n'est pas seulement d'un côté. On dit souvent que c'est les évangéliques qui sont en pointe, mais je constate aussi chez les luthériens et les réformés un renouveau. Donc, il serait vraiment catastrophique de ne pas saisir l'occasion que nous avons aujourd'hui pour mieux travailler ensemble en nous respectant les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus parler de théologie, ne plus discuter. Il faut dialoguer. Mais dans le respect, je pense que tout le monde aura à y gagner.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à cette question de l'unité et de la diversité? André Gounel.
J'ajouterai volontiers d'autres choses à ce qui vient d'être dit. D'abord, ce n'est pas tout à fait le thème, mais je voudrais dire mon plein accord avec ce que disait M. Collange sur la beauté. Et il est clair que l'esthétique réformée est une esthétique dépouillée, mais c'est une esthétique. Et souvent, nos temples sont, de ce point de vue-là, scandaleux. Calvin et Zwingli et Calvin ont insisté sur la beauté, une beauté qui ne se voulait pas charger, mais qui devait quand même être une grande beauté. Et là, nous avons quelque chose à apprendre. Ça ne veut pas dire introduire des tableaux, des statues et des tas de machins, mais savoir retrouver le sens de la beauté. Deuxième remarque, Hubert avait beaucoup insisté sur la porosité des frontières. Je le sens très fortement. Le libéralisme doit beaucoup au réveil, et le réveil doit beaucoup au libéralisme. Et ils sont tous les deux hérités du romantisme. Et on constate chez un tas de libéraux, Auguste Sabatier serait peut-être le plus bel exemple, cette porosité, ce mélange de piétisme et de libéralisme. Troisième remarque en ce qui me concerne, en tant que chrétien, en tant que théologien, l'unité, c'est vraiment pas mon problème, si par unité, on entend une unité institutionnelle. Ça, je m'en moque complètement. Et à certains égards, je ne préfère même pas. Parce que avoir une église unie dans le christianisme, c'est un peu comme avoir un journal unique dans un pays. On sait ce que ça peut donner. Et quelquefois, je me sens parfaite communion avec tel ou tel prêtre canadien que mes amis identifieront immédiatement, beaucoup plus qu'avec tel ou tel pasteur de mon église. On prend pas la communion ensemble, ça m'est égal. Vraiment, ça m'est égal. Lui, il en souffre, par contre, mais moi, ça m'est égal.
Oui, c'est ça, être libéral, un peu, quand même.
Oui, moi aussi. Et je trouve, je suis pas du tout un fanat de la fédération, excusez-moi, mais je trouve quand même que la fédération, c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir. C'est un modèle extrêmement important, modèle d'église qui décide d'être ensemble et modèle où on crée un réseau et on crée une union de réseau. D'un réseau où on collabore, d'un réseau où on discute, d'un réseau où on est quelquefois en désaccord, un réseau où on se critique, où on se parle. Et pour moi, c'est ça vers lequel il faut aller, et pas du tout une sorte d'uniformité institutionnelle, théologique, etc. Le réseau, tenir compte de l'autre, penser avec l'autre, penser en fonction de l'autre, mais ne pas être tout semblable, ce serait mortellement ennuyeux.
Bon, mais écoutez, ça nous va comme conclusion, hein. C'est très bien. Merci beaucoup, André Gounel. Donc, nous avons fait un petit tour, mais vraiment très léger. On est un peu confus d'être si court. On a donc une autre rencontre qui va avoir lieu maintenant. Nous avons parlé de nos affaires internes. Et maintenant, on va aborder la question de notre engagement commun vis-à-vis du monde, dans notre responsabilité vis-à-vis de la société et nos engagements dans la société. Voilà, donc merci beaucoup à tous nos intervenants pour cette